nous avons dit la prière de foi de partage.
Il y a une... Oh, ça y est. Alors, il y a une prière. Dans la prière, il y a une expression où il dit « Apprends-nous l'esprit des béatitudes ». Puis là, il y a Jean-Claude de faire référence à la retraite. Alors, il me vient dans le cœur de commencer comme on avait fait la retraite. Je ne sais pas si vous vous rappelez. À la vue de la foule, qu'est-ce que Jésus fait? Il gravit la montagne. Il s'assit. Il est le maître qui enseigne. Hein? C'est ça, il s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui. Et alors, il se mit à leur dire, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils auront la terre promise en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de choses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons cette parole du Seigneur. Alors, vous vous rappelez, puis j'avais invité même à l'apprendre par cœur. Vous vous rappelez, jour après jour, on revenait avec les béatitudes. Ça m'est venu comme un flash ce matin. On aurait pu parler, aborder Marie, femme de béatitude. Parce que la première béatitude que nous avons dans le Nouveau Testament, on ne l'a pas sur les lèvres de Jésus. On a cette première béatitude sur les lèvres d'une femme. Qui? Non. Élisabeth. Et qu'est-ce qu'elle dit, Élisabeth? Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie est une femme heureuse, une femme de béatitude, une femme de la joie. Pourquoi? Parce qu'elle met sa confiance, elle met sa foi dans le Seigneur. Le thème que j'ai pour la retraite, ça c'est Jean-Claude qui m'encombre avec ses affaires. Bon, alors, la retraite, c'est le thème qu'on m'a donné, hein? Alors, c'est de... Alors, j'ai apporté des... Je vais faire ça très... La première partie ce matin, je voudrais que ce soit très dynamique. Je vais vous questionner, comme il pleut à part ça, là, on est peut-être un petit peu endormi. Alors, je vais vous garder réveillé. Alors, la conférence de ce matin, c'est de... À. Je ne sais pas si vous vous rappelez. De quoi? Alors, de l'Annonciation. Alors, j'ai apporté ce poster où on voit l'ange. Et puis, de l'Annonciation à la croix. J'ai apporté ce poster où on voit Marie au pied de la croix avec qui? L'apôtre bien-aimé. Bon, alors, c'est vrai, j'ai apporté des fiches, je vais m'en servir quand même. Hein? Alors, ce que je voudrais dans un premier temps, alors, comme je vous disais, on va faire ça un peu dynamique. Alors, dans un premier temps, je vais vous poser quelques questions pour voir si vous êtes bien réveillés. Alors, première question, dans quel évangile qu'on trouve le texte de l'Annonciation? Saint-Luc, parfait. Comment s'appelle l'ange qui va se manifester à Marie? L'ange Gabriel. Alors, dans le texte, on nous dit que c'est au sixième mois. Par rapport à quoi qu'on parle du sixième mois? Par rapport à Élisabeth qui est enceinte depuis 6 mois. Elle est enceinte de qui? Et qui est son époux? Zacharie. Zacharie, son épouse. C'est pas grave si vous vous trompez. J'aime mieux qu'on essaie de parler plutôt que de rien dire. OK. Alors, et on dit que Marie, elle est fiancée à un homme qui s'appelle... C'est facile, ça. Mais Joseph est de la maison de qui? La maison de David. Était de la descendance de David. OK. Et Marie est troublée, nous dit le texte. Je vous pose une question. Elle est troublée à cause de l'ange, vrai ou faux?
Faux.
Faux. Elle est troublée à cause de l'ange, vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Elle est-elle troublée pour commencer? Le texte nous dit que Marie fut troublée. OK. Elle fut troublée à cause de quoi? À la parole. Non pas nettement, le texte nous dit à cette parole que l'ange a dite, Marie fut troublée. Et quelle est cette parole? Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, Marie fut toute troublée. C'est étonnant. Elle n'est pas troublée à la présence de l'ange, elle est troublée à cause de la parole. On va y revenir aujourd'hui avec cette parole qui est puisée dans le prophète Sophonie qu'on aura à la messe aujourd'hui. Le texte de Marie en croix, pas Marie, mais de Jésus en croix, et puis Marie qui est au pied de la croix se trouve dans quel évangile? L'évangile de Saint Jean. Et qui est avec Marie au pied de la croix? Jean? Je vous défie de trouver dans l'évangile de Saint Jean le nom de Jean. Le nom de Jean ne figure pas dans l'évangile de Jean. C'est? Exactement. C'est le disciple que Jésus aimait, c'est le disciple bien-aimé. C'est étonnant. Dans tout l'évangile de Jean, on ne rencontre jamais explicitement le nom de Jean. On va parler des fils de Zébédée. On comprend bien qu'il s'agit de Jacques et de Jean, mais ils ne sont pas nommés. Au pied de la croix, Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, c'est pas dit Jean, c'est dit le disciple que Jésus aimait. Bon, vous allez me dire, c'est-tu Jean ou c'est pas Jean? On ne rentrera pas là-dedans. Ce sera le sujet d'une prochaine retraite un jour. Hein, si vous en avez une sur l'évangile de Saint Jean, ce sera très beau. Alors, donc on passe de l'Annonciation à la croix. Marie qui est là à l'Annonciation, puisque c'est à elle que l'ange va se manifester, et Marie, elle est là, présente au pied de la croix. La première fois où il est fait mention de Marie dans les évangiles, c'est à l'Annonciation dans l'Évangile de Luc. La dernière fois où dans l'Évangile il est fait mention de Marie, c'est à la croix. Mais entre les deux, on retrouve Marie. Parce que comme le thème c'est « de » « à », j'ai pensé que ce serait bon dans un premier temps d'essayer de voir où apparaît Marie, en quelles circonstances apparaît Marie. Quel est le cheminement, si on peut dire, qu'il y a entre Marie de l'Annonciation et Marie de la Croix. Vous voyez? Pour ça, vous allez m'aider. Hein? Vous allez m'aider. Bon, alors ça ici, alors on va le mettre. Alors, si j'avais des lutrins, ça aurait pu. Bon, je mets la croix ici et je mets l'Annonciation ici. Bon. Alors, quels sont des événements ou des évangiles où il est fait les questions de Marie? Alors, la visitation. Alors, donc, après, immédiatement après l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle va à la rencontre de sa cousine, Élisabeth. Donc, immédiatement après l'Annonciation, c'est la visitation. Et dans la visitation, qu'est-ce qui va suivre immédiatement? Qu'est-ce qui est inséré dans la visitation? C'est le Magnificat. Mon âme exalte de... Mon esprit exulte de joie, mon âme exalte, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Hein? Alors, on fait juste rappeler ça. Tantôt, ce que je veux faire, comment, à travers ce cheminement de Marie, comment Marie, qui est modèle de foi pour nous, comment, à travers tous ces événements qu'on va mentionner, comment ça peut nous guider, nous éclairer nous-mêmes dans notre propre cheminement de foi. Vous voyez? Alors, donc, l'Annonciation, après l'Annonciation, c'est la Visitation, au cours de laquelle Visitation est situé le Magnificat. Qu'est-ce qui se passe après, quand il est question de Marie? La nativité de Marie, nécessairement, hein? Marie qui met au monde l'enfant Dieu, l'enfant Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après la nativité? Alors, 8 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? On va présenter Jésus au temple. Et là, au temple, qu'est-ce qui arrive? On offre le premier-né. D'ailleurs, c'est très significatif l'expression, premier-né. Alors, on offre le premier-né. Et puis là, vous avez 2 personnages au temple qui vont s'adresser à Joseph et à Marie. C'est le vieillard Siméon qui va dire à Marie, « Toi, un glaive te transpercera le cœur. » Et vous avez la prophétesse Anne qui va louer le Seigneur. Alors, vous avez donc cet événement-là qui va se produire. Après ça, on retrouve Marie dans les Évangiles. Pardon, oui, ça se peut qu'on oublie, si on oublie, dites-le-moi.
Après la naissance de Jésus, quand les bergers l'annonce de la naissance de Jésus, ils partent pour adorer Jésus. Et ils racontent des choses de Marie, puis il est dit, « Et Marie retenait toutes ses paroles en les récitant dans son cœur. »
Ça revient 2 fois, je l'ai pris pour après 12 ans. OK? Alors, mais dans l'évangile de saint Matthieu, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est la fuite en Égypte. On va y revenir là-dessus. Et qu'est-ce qui est frappant, c'est que dans l'évangile de saint Matthieu, l'ange dit, « Prends l'enfant et sa mère. Fuis au pays d'Égypte. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et partit au pays d'Égypte. « Prends l'enfant et retourne au pays d'Israël. » Joseph se réveilla, prit l'enfant et sa mère, et retourna au pays d'Israël. L'expression « l'enfant et sa mère ». Vous voyez, Jésus, c'est l'enfant de Marie. Vous voyez, c'est pas l'enfant de Joseph, conçu du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, j'ai pas la fuite en Égypte ici, mais vous avez ça. Après ça, plus tard dans l'Évangile, on voit Marie qui va intervenir dans cette scène-ci. Alors, c'est Jésus qui est au temple. Ton père et moi, tout inquiets, nous te cherchions. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux choses de mon père? Et là, Jésus va retourner avec Joseph et Marie à Nazareth. Et là, Marie, elle ne comprend pas. On va revenir là-dessus. Marie ne comprend pas qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « Il faut que je sois dans la maison ou aux choses de mon Père. » L'évangéliste dit bien « Elle ne comprenait pas. » Puis ils vont retourner à Nazareth et là, Marie va méditer toutes ces choses dans son cœur. Ça va? Bon. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, j'en avais une ici. C'est ça. Ben vous allez, ça y est, ça arrive. Alors, ils s'en vont à Nazareth. Alors, j'ai pris cette reproduction ici, où on voit Marie qui est en train d'éplucher des légumes, préparer à manger, puis Jésus qui travaille avec Joseph, qui sont en train de travailler un morceau de bois. Alors, je vais les laisser sur la table, puis vous pourrez toujours venir les regarder tout à l'heure. Et puis, après ça, quand est-ce qu'on voit Marie? Exactement. Alors, on voit Marie aux noces de... Alors, et qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle va intervenir auprès de Jésus en faveur des gens de la noce, en disant, ils n'ont plus de vin. Et qu'est-ce que Marie fait? Elle va renvoyer les serviteurs à Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va leur dire? Faites tout ce qu'il vous dira. Alors, vous avez les noces de Cana. Et, enfin, je ne l'ai pas ici de production pour ça, c'est quand, à un moment donné dans l'Évangile, Matthieu, Marc et Luc vont nous rappeler cet événement-là. Jésus est en train de prêcher, il y a la foule, Et puis, voici que l'on dit à Jésus, tes frères, tes sœurs, ta mère, ils sont là, ils veulent te voir. Et là, Jésus va dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui est mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Dieu, du Père. Voilà qui est mon frère, ma sœur, ma mère. Ou ailleurs, chez Saint-Luc, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, voilà celui qui est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et après cela, on retrouve Marie, la scène finale où on retrouve Marie, c'est à la croix. Ça va pour ça? Alors, on passe donc de l'Annonciation à la croix. Marie de l'Annonciation, Marie de la croix. Et donc, brièvement, sans voir la lecture de tous ces textes, alors j'ai essayé de présenter un petit peu Marie dans tout ce déroulement-là. Maintenant, c'est bien beau de faire l'histoire de cela. En quoi nous autres, ça nous concerne? On dit que Marie, elle est modèle de l'Église. C'est qui ça, l'Église? C'est nous. Elle est modèle pour nous. Elle est modèle de foi pour nous. Donc, comment la foi de Marie a été vécue à travers tous ces événements auxquels on vient de faire référence, de l'Annonciation à la croix? Comment Marie a vécu, comment la croyante qui est Marie, comment a-t-elle vécu cela? Et en quoi ça peut nous éclairer, nous, aujourd'hui, dans notre cheminement de foi? Ça va? Alors, c'est pour ça que je voulais faire référence à ces différents tableaux de la vie de Marie. Maintenant, deuxième étape, à la lumière de ces tableaux, qu'est-ce qu'on pourrait retirer pour notre cheminement de foi? Avant d'entrer maintenant dans cette deuxième... Ça va-tu pour la première partie?
Oui.
Est-ce qu'il y a des questions pour clarifier la situation un petit peu?
Non.
Ça va. On chante la première en chemin, puis on s'engage maintenant dans la deuxième partie. Alors, j'ai dit que Marie, la dernière fois qu'on l'avait mentionnée dans l'Évangile, c'est au chapitre 19 de Saint Jean au pied de la croix. Mais dans le Nouveau Testament, qui comprend pas seulement les quatre Évangiles, mais qui comprend aussi les Actes des Apôtres, les Lettres et puis l'Apocalypse, Marie est aussi mentionnée une fois. C'est dans les Actes des Apôtres. lorsqu'il est dit que les apôtres sont en prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Okay? Donc, dans les évangiles, la dernière fois qu'il est fait mention de Marie, c'est à la croix, mais dans le Nouveau Testament, c'est après la résurrection, alors que Marie est en prière avec les apôtres. Et c'est bon de penser, vous savez, que Marie, on vient de chanter, marche avec nous, Marie. On n'a pas chanté ça à une absente. Nous avons chanté cela à une présente. Marie est présente. On la voit pas, on la sent pas, on la touche pas, mais elle n'est pas moins présente avec nous. Vous savez, au foyer de charité, Marthe Robin a nécessairement une grande place au foyer de charité. Et Marthe Robin, souvent, elle a vécu des choses spéciales, oui, c'est vrai. Dans l'expression, c'était spécial. Et Marthe, dans sa vie, bénéficiera de l'apparition de la Vierge. Et là, des fois, il y a des gens qui me disent « Es-tu chanceuse, elle? Moi, j'aimerais ça que la Sainte Vierge m'apparaisse. » Mais Marthe, elle a une belle parole qui est très éclairante. Marthe, elle dit « Moi, je suis un signe pour les chrétiens. Je ne suis pas un spectacle à regarder. » Il me voit comme une femme bien spéciale, qui vit des choses spéciales. Je suis un signe pour les chrétiens. Et au fond, qu'est-ce que les apparitions de la Vierge Marie à Marthe? Et Marthe va faire l'expérience de la maternité de Marie, si bien qu'elle va l'appeler la maman bien-aimée, la maman chérie. Elle fait l'expérience de la maternité de Marie. Elle est un signe pour nous. Elle est un signe pour nous. À travers ce qui se passe entre Marie et Marthe, c'est pas pour rester là, les deux collés comme ça en fusion. Non, non, non. C'est un signe pour nous. Marthe fait l'expérience de la maternité afin de nous ouvrir, de nous sensibiliser davantage à la maternité de Marie aussi pour chacun, chacune d'entre nous. Nous ne bénéficions pas d'apparition de la Vierge, mais Marie n'est pas moins maternelle pour chacun, chacune d'entre nous qu'elle ne l'a été pour Marthe Robin. Et si elle l'a été d'une façon sensible à travers des apparitions à Marthe Robin, c'est pour nous dire qu'elle est mère pour chacun, chacune d'entre nous. Vous voyez, c'est un signe pour nous. Qu'elle goûte de sa relation avec Marie, c'est pour nous autres, en fin de compte, pour nous réveiller davantage à cette maternité de Marie. Marie n'est pas moins présente avec nous. Je n'ai pas besoin qu'elle nous apparaisse. Je crois, j'ai confiance en sa présence, à son intercession, à sa médiation maternelle pour chacun et chacune d'entre nous. Ça, c'est important. Alors, Marie prie avec nous aujourd'hui. Puis nous lui confions. On lui confie ce que l'on porte, chacun, chacune d'entre nous, dans notre cas. Alors, on reprend à l'Annonciation. J'essaie de dégager quelques caractéristiques de notre foi à travers les divers tableaux qu'on vient de voir où il était fait mention de Marie. Ça va? J'en ai plusieurs. Ça pourrait nous servir, je les ai tous. Hein? Marie, heureuse celle qui a cru, dit l'ange. Si j'étais bon en technicien, j'aurais pu avoir arrivé avec une clé puis vous présenter ça sur l'écran, mais je ne suis pas très bon, moi, dans ce domaine-là. Alors, j'ai pris du papier, alors je me suis dit, je reprends. Alors, heureuse celle qui a cru. Marie, elle est dans la joie, elle est heureuse parce qu'elle met sa foi dans le Seigneur. Et la foi, la confiance, est toujours un chemin de bonheur. Et c'est vrai. Seulement dans nos relations humaines, s'il y a de la méfiance entre nous, s'il y a de la méfiance dans une vie de couple, hein, s'il y a de la méfiance entre Claire et Jacqueline, est-ce que ça va les rendre heureux, vous pensez?
Non.
Pas du tout. Mais s'il y a de la confiance entre les deux, eh bien, on est bien. Hein? Vous voyez, la confiance est un chemin de bonheur. Entre nous, les humains, et la même chose avec Dieu. Heureuse. Tu es sur un chemin de bonheur, Marie, toi qui as mis ta confiance dans le Seigneur. Et ça vaut aussi pour chacun, chacune d'entre nous. Alors, donc, C'est un chemin de bonheur que la foi, la confiance. Maintenant, il faut bien penser que Marie, vous savez, elle a cheminé dans la foi. Et c'est le pape Paul VI qui, dans sa lettre sur le culte marial, va nous rappeler ça. Marie n'a pas eu tout cru dans le bec, à un moment donné, là, tout cuit dans le bec. Elle a marché, elle aussi, dans la foi. Quand dans l'Évangile de Saint-Luc, il est dit que Marie ne comprenait pas, eh bien, elle ne comprenait pas. Mais elle fait confiance. C'est éclairant pour nous autres, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas, à moins que vous compreniez tout, vous autres, mais moi, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je fais confiance. Vous voyez? Faire confiance, alors même qu'on ne comprend pas. Alors donc, Marie a cheminé dans la foi, et c'est notre expérience à chacun, chacune d'entre nous ici, de cheminer dans la foi. D'où les apôtres vont dire à Jésus, « Seigneur, augmente en nous la foi. » Et Jésus va dire à Pierre, « J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. » Parce que la foi peut diminuer comme elle peut augmenter. Vous voyez? On est en chemin, en cheminement. Alors, maintenant, j'en viens à l'Annonciation. Alors, dans l'Annonciation, alors il y a trois aspects que je voudrais mentionner en lien avec notre foi. Qu'est-ce que l'ange va dire à Marie? Réjouis-toi, comblée de grâce. Réjouis-toi, comblée de grâce. Première dimension dans notre foi, c'est que nous sommes, nous aussi, comblés de la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est son amour gratuit. La première chose dans notre foi, accueillir, croire que je suis aimé de Dieu. Il y a pour chacun, chacune d'entre nous, la grâce. Ce que je suis, dira saint Paul, c'est par la grâce de Dieu que je le suis. Et c'est quoi la grâce? Amour gratuit. Quelque chose qu'on n'a pas mérité, ça nous est donné gratuitement. Hein? C'est ça. Dieu nous a aimés le premier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Dans l'Annonciation, Marie, la croyante, eh bien, fait l'expérience, accueille la grâce, accueille qu'elle est aimée de Dieu. Et dans notre cheminement de foi, la première attitude, la première grande expérience à vivre, c'est de réaliser que nous sommes aimés de Dieu. La grâce, c'est aussi pour chacun, chacune d'entre nous, la grâce, c'est cet amour gratuit de Dieu à notre endroit. C'est vrai pour Marie, la croyante, c'est vrai aussi pour nous, le croyant. Ça va pour ça? Donc, première, dans notre cheminement de foi, accueillir la grâce. Deuxième chose, Marie va dire, comment cela va-t-il se faire? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ah! Deuxième chose dans notre foi, que je trouve qui est capitale, puis on l'a célébré dimanche passé, c'était la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce qui arrive à la Pentecôte? Le don de l'Esprit Saint qui nous est fait. L'Esprit Saint viendra sur toi, Marie. Dans la foi, crois que l'Esprit Saint est venu sur Claire. L'Esprit Saint vient sur Maud. Il vient sur Jean-Claude, hein, sur Paul. L'Esprit Saint vient demeurer en chacun, chacune d'entre nous. Ce n'est pas seulement pour Marie. Pour Marie, la croyante, et pour les croyants, les croyantes de tous les temps, il nous est fait le don de l'Esprit Saint. Et là, vous avez cette belle parole de saint Paul. Mon corps, c'est un temple. Le temple du Saint-Esprit. Puis même demain, ça va être hein, non seulement le Saint-Esprit, mais le Père et le Fils. Le Père et moi, nous l'aimerons, nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure. Hein? Et demain, c'est la fête de la Trinité. Ah, voyez donc, dans notre expérience de croyant, face à cette expérience que nous ne sommes jamais seuls, il nous est fait le don de l'Esprit, hein, tout comme il a été fait le don de l'Esprit à Marie, eh bien, nous avons aussi hein, en nous le don de l'Esprit. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Hein? Réjouis-toi, comblé de grâce, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et qu'est-ce qui se passe avec le oui, le fiat de Marie? Marie devient enceinte. Elle devient la porteuse du Verbe de Dieu. Elle vient la Théotokos, la Mère de Dieu. C'est beau. Eh bien, dans la foi, crois que nous sommes tous porteurs et porteuses de Dieu. Nous sommes tous porteurs et porteuses de Dieu. Nous portons Dieu, nous portons le Christ. Le Père et moi, comme je viens de le mentionner, nous viendrons en lui, nous ferons chez lui notre demeure. Pensez quand on vient de communier. On aura la messe tout à l'heure. Après avoir communié, c'est toujours important de garder un moment de recueillement, de silence. Trop souvent, hélas, on passe vite. À peine on finit de communier, que, hop, on fait la prière de conclusion, puis on s'en va. Mais prendre un temps après la communion pour se recueillir, de prendre conscience qu'on a ce petit morceau de pain, hein, petit morceau, c'est banal, un petit morceau de pain, c'est pas grand-chose. Mais pourtant, dans ce petit morceau de pain, c'est Dieu qui se rend présent. Dieu qui dit « Je t'aime, puis je m'en viens demeurer chez toi. Je vais demeurer dans ton corps mortel, dans ton corps fragilisé, dans ton corps vulnérable. Moi, Dieu, je viens demeurer. » Regardez la dignité du corps humain, la dignité de la personne humaine qui nous est révélée dans notre foi chrétienne. Un Dieu qui vient demeurer en nous. Ah, vous voyez, dans le mystère de l'Annonciation, alors on peut dégager au moins ces trois dimensions-là. La grâce, le don, qui est l'amour gratuit, le don de l'Esprit, et la formation du Christ, la présence du Christ en chacun, chacune d'entre nous. Ça va? Deuxième tableau, c'était quoi? La visitation. Alors, dans la visitation, qu'est-ce qui se passe? C'est très beau. C'est la foi qui se partage. Vous voyez? Marie, son expérience, elle ne garde pas ça pour elle tout seule. Marie se met en route rapidement, nous dit le texte de l'Évangile, pour aller vers sa cousine Élisabeth. Ah bon? Notre foi n'est pas une foi à garder dans le garde-robe. Il ne faut pas garder notre foi dans le congélateur. Non, non, non. Non, c'est fait pour être mis sur la table afin qu'on se nourrisse avec ceux et celles qui nous entourent. Vous voyez? Mais trop souvent, peut-être, on peut mettre notre foi bien, bien, bien enveloppée, là, dans de la ouate, là, puis bien conservée. Non, 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 non. C'est fait pour être... Il faut se mettre en route. La foi, elle est faite pour être partagée. Et moi, je dis, vous savez, souvent, une foi qui s'affirme, c'est une foi aussi qui s'affermit. Affirmer, puis affermir. Il faut mettre les deux ensemble. Si notre foi s'affirme, se dit, eh bien, en même temps, elle va s'affermir. Mais si on est des chickens, comme on dit, si on n'ose pas s'affirmer dans notre foi, eh bien, elle sera jamais ferme. Non. Vous voyez, Marie qui va aller vers sa cousine. Donc, c'est une foi qui est appelée à être partagée. Et je mets ça en lien avec ce que le pape François nous dit, que l'Église doit être une Église en sortie. Une Église en sortie. Vous voyez, il n'y en a pas ici. Alors, c'est bizarre. Les inspections du bâtiment vont venir peut-être voir. Normalement, il devrait y avoir exit, pour qu'on puisse sortir. Alors, on est une Église en exit, c'est-à-dire en sortie. Alors, donc, c'est pas seulement un « je crois », mais c'est aussi un « nous croyons ». Vous voyez, c'est un « nous croyons ». Et donc, la visitation nous rappelle cette dimension-là de notre foi. Alors, pas une foi qui se garde dans mes poches, mais une foi qui se partage, qui m'amène à aller vers, et mon « je crois » devient un « nous croyons ». Ça va? Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est le... Non, non. Avec la visitation, qu'est-ce qu'il y a? Le Magnificat, le Magnificat. Il y a deux points que je voudrais mentionner dans le Magnificat. Notre foi doit être une foi joyeuse. Mon âme exalte le Seigneur, exulte de joie mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Notre foi doit être une foi joyeuse. Le pape François, s'adressant à la vie consacrée, parce que vous savez que cette année, c'est l'année de la vie consacrée. Et le pape François, à un moment donné, va parler de la sequela Christi. C'est quoi, c'est la sequela Christi? C'est quoi, Claire, la sequela Christi? C'est pas? Alors, la sequela Christi, sequela, ça veut dire la suite. Christi, le Christ. Alors, la sequelos Christi, c'est le fait de marcher à la suite du Christ. Quand on dit, quand dans l'Évangile, Jésus dit au jeune homme riche, « Va, viens, puis viens, suis-moi », ça, c'est de la sequela Christi. Quand on dit que les apôtres quittent tout puis vont se mettre à la suite de Jésus, c'est ce qu'on appelle la sequela Christi. Alors, le pape, il dit aux gens qui sont engagés dans la vie consacrée, exemple Maurice et moi, qui sommes engagés dans la vie consacrée parce qu'on fait partie d'une communauté, d'une société de vie apostolique ou un institut, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, alors, c'est une année qui est consacrée à cette réalité-là de la vie consacrée. Le pape, donc, va dire, une sequela Christi triste, c'est une triste sequela. Alors, c'est important, ça vaut pas seulement pour la vie consacrée, ça vaut aussi pour tout chrétien, tout baptisé. Un chrétien triste, c'est un triste de chrétien. Saint Jean Bosco lui disait, un saint triste, c'est un triste saint. Alors, un triste saint. Et le pape, rappelez-vous la lettre du pape, la joie de l'Évangile. Alors, vous voyez, on a une bonne nouvelle à donner au monde. C'est sûr que la joie, on n'a pas tous la même personnalité, on ne va pas l'exprimer de la même façon. Il y en a qui sont plus explosifs, d'autres qui sont plus intérieurs, plus calmes. Bon, ça dépend. Mais que la joie soit présente dans nos vies, quelle que soit notre personnalité ou nos conditions de vie diverses. Voyez? Donc, que notre foi soit joyeuse. Si on veut que le monde croit, si on arrive avec un visage triste, la joie. Et dans le Magnificat, alors donc la foi joyeuse, et dans le Magnificat, il y a quelque chose aussi qui est très important, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Notre foi en Dieu, c'est la foi en un Dieu qui est miséricordieux. Le Seigneur dira à Sainte Faustine que c'est là l'attribut principal de Dieu. Dieu est d'abord un Dieu miséricordieux. Il ne vient pas pour condamner, il vient pour sauver. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Et à partir du 8 décembre 2015, qu'est-ce qui se passe dans l'Église? C'est l'année de la miséricorde qui va commencer et qui va durer jusqu'au 20 novembre 2016, qui soit la fête du Christ roi à ce moment-là. Alors, les portes saintes de toutes les 7 portes saintes dans l'Église seront ouvertes à nouveau. Nous, on venait de fermer la nôtre, donc on va la réouvrir pour l'année de la miséricorde. Et encore là, le pape François a écrit un texte pour annoncer cette année de la miséricorde. Puis c'est important que nous, comme baptisés, croyants, on soit des hommes et des femmes de la miséricorde pour manifester que tel est notre Dieu. Ne jamais se décourager de ce qu'un homme, une femme peut vivre. Non. Dieu est le Dieu de la miséricorde. Dieu ne nous aime pas, comme disait Thérèse de l'enfant Jésus, malgré nos péchés. À cause même de nos péchés, Dieu nous aime. À cause même de nos faiblesses, Dieu manifeste son amour, sa miséricorde pour nous. Alors voilà donc, dans notre foi, à partir du Magnificat, deux aspects qu'il faut bien intégrer dans nos vies, la joie et la miséricorde. Ça va? Vous continuez? Vous n'êtes pas essoufflé? On continue. Et là, qu'est-ce qui se passe après? C'est la nativité, Marie qui va donner naissance. Elle va mettre au monde l'enfant Dieu. Mais dans notre foi, comme croyants, je lui ai dit, Marie, elle est modèle pour nous. Qu'est-ce que Marie fait? Elle met au monde. Elle est modèle pour nous. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? À mettre Jésus au monde. C'est fort. Nous sommes appelés, d'ailleurs Jésus va le dire, qui est ma mère? On est appelé à être les mères de Jésus. René, tu es appelé à être une mère. Ça fait drôle, de dire ça. Jacqueline, tu es appelé à être une mère. Nous autres, même les hommes, on est appelés à être une mère. Ça veut dire quoi? Que soyons hommes ou femmes, mâles ou femelles, comme on dit. Nous savons à donner le Christ au monde. Nous avons à l'enfanter dans notre monde aujourd'hui. Comment Dieu va-t-il être connu dans le monde si ce n'est pas nous qui l'enfantons en ce monde? Alors, et c'est important, et j'ai marqué ici, pas seulement des valeurs, mais nous avons à donner le premier-né. Parce que être chrétien, vous savez, il ne faut pas être réduit à être quelqu'un qui vit des belles valeurs. Et ça, c'est regrettable. Des fois, on va dire un chrétien, une chrétienne, oh, il vit des belles valeurs. Non, non, c'est pas suffisant. Nos valeurs, ils sont raccrochés à quelqu'un qui s'appelle Jésus. On n'est pas appelé seulement à vivre des belles valeurs. C'est bien de vivre des belles valeurs de justice, de don de soi, de générosité. Mais qui est-ce qui est à la source de toutes ces valeurs-là? Qui inspire toutes ces valeurs dans ma vie? Ça ne flotte pas dans les airs, les valeurs que je vis. Elles s'enracinent dans la personne de Jésus. C'est Jésus qui est généreux et qui m'appelle à la générosité. C'est Jésus qui est le juste et qui m'appelle à la justice. C'est Jésus qui aime et qui pardonne et qui m'appelle à vivre cette valeur du pardon. Vous voyez? Ça, c'est important. Et de présenter Jésus comme étant le premier-né. Je n'ai pas le temps de développer ça beaucoup. Mais Marie enfanta et mis au monde son premier-né. Quand on dit le premier-né, ça ne veut pas dire que c'est un parmi toute une série. Hein? Si je dis le premier-né chez nous, ben ça suppose que ma mère en a eu d'autres. Quand on dit ça de Marie, ça ne veut pas dire que Marie a eu d'autres enfants comme tel. Non, 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 ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est une expression qu'on a dans la communauté chrétienne au tout début de l'Église, qu'on retrouve d'ailleurs dans la lettre de saint Paul aux Colossiens. Jésus est le premier-né de toute créature. Jésus est le premier-né d'entre les morts. L'expression « premier-né » veut signifier la primauté de Jésus sur toute la création. Hein? Vous êtes au Christ et le Christ est au Père. Mais tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est au Père. La primauté du Christ. Alors, dans notre vie, nous avons à donner Jésus, mais pas n'importe quel Jésus. Pas un Jésus tout simplement humain, un Jésus prophète, un Jésus bon gars. Non, non, non. Jésus est le premier-né. Il a primauté sur toute la création. Jésus, en fin de compte, c'est Dieu parmi nous. Voyez? Ça va pour ça? On peut se lever, parce que là, j'ai peur que... Hein, on va chanter un petit chant.
On pourrait pas mettre qu'il y aurait trois places, parce que ce serait bien de mettre un là.
Après, on pourrait les mettre après ça, puis je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. OK?
Après ça, on va adorer, alors,
tu sais,
pour les enlever.
OK. Oh, on peut.
Ça va être bon, il va avoir
trois. Oui, c'est quoi?
On
va
faire la première en chemin, on va le prendre.
Ça va, vous me suivez, là? Ça en a fait beaucoup, peut-être. J'ai repensé à ça, j'ai dit, oh là là, ça en a fait beaucoup. Ce qu'on va faire dans le partage cet après-midi, là, je vais vous donner à peu près 20 caractéristiques de notre foi. Là. Je suis rendu à la 10e caractéristique de notre foi à partir des tableaux. OK? Après-midi, dans le partage, je vous suggère ça. En choisir un qui vous frappe davantage. Admettons, si vous dites, ah, moi, ce qui me frappe, c'est quand Marie, dans notre foi, c'est la miséricorde. Un autre peut dire, moi, c'est donner Jésus au monde. Ah, moi, c'est la grâce. Puis, développer à partir d'un des aspects, peut-être, qui vous a plus particulièrement touché dans les caractéristiques de la foi de Marie, qui sont appelées aussi à être nos caractéristiques en tant que croyants. Ça vous va?
Oui.
Alors, on continue. Dans le texte de saint Matthieu, il est dit, « Prends l'enfant et sa mère, fuit au pays d'Égypte, prend l'enfant et sa mère, et retourne au pays d'Israël. Prendre l'enfant et sa mère. Hein? L'enfant, c'est qui? C'est Jésus. Mais je vous ai dit, Marie, elle est modèle pour nous autres. Donc, ici, prendre l'enfant et sa mère, il ne s'agit pas uniquement de Marie, mais à quelque part, il s'agit aussi de chacun, chacune d'entre nous. Nous sommes appelés à prendre l'enfant avec nous. Aller en Égypte, aller en Israël. Israël, c'est le peuple des croyants, ceux qui croient en Yahvé. L'Égypte, c'est le peuple des païens. Que l'on aille, qu'on se retrouve entre croyants, ou qu'on se retrouve avec des gens qui ne sont pas croyants, qu'on aille en Égypte, parce qu'il y en a des Égyptes dans notre monde d'aujourd'hui. Il y en a des Égyptes. Hein? On est juste allé des fois dans nos familles. Hein? Il y a des parents. Pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait, hein, son fils a apostasié. Eh bien, vous voyez, apostasier, ça veut dire renier sa foi. Ça, c'est un Égypte qui est vécu au cœur même de la famille. Ou qu'on aille en Israël, qu'on se retrouve dans un milieu de gens qui sont croyants. Avoir toujours l'enfant avec nous, c'est-à-dire Jésus. Prendre l'enfant, prendre Jésus avec nous dans quelque lieu que nous allions. D'où dans notre foi, hein, pouvoir dire « Je ne suis jamais seul ». La vie chrétienne, comme je dis souvent, c'est un « nous ». Ce n'est pas un « je », c'est un « nous ». Nous faisons un seul être avec le Christ, dit saint Paul, par le baptême. On fait un seul être. C'est un « nous » que notre vie chrétienne. Donc, prendre l'enfant et sa mère, donc, entrer de plus en plus dans une communion personnelle avec Jésus, c'est l'enfant et Marie, oui, mais aussi, Marie, elle est modèle pour nous, c'est l'enfant Dieu, et puis on pourrait mettre chacun notre nom. Ça va pour ça? On continue. À l'âge de 12 ans, Jésus se retrouve au temple qu'on avait dit. Et puis là, Marie et Joseph, l'ayant perdu de vue, au bout de 3 jours, ils vont le retrouver dans le temple. Deux aspects que je veux mentionner dans le cheminement de la foi de Marie. D'abord, Marie, on nous dit, elle ne comprend pas tout ce que Jésus lui avait dit. Et c'est vrai dans nos vies, vous savez. Dans notre foi, on ne comprend pas tout. Tu sais, des fois, il y a une question, moi, je vous donne un exemple, une question. Des fois, les gens disent, mais ça se peut-tu qu'il y ait des gens qui seraient damnés? Hein? Dieu veut respecter notre liberté, Dieu respecte notre liberté, il ne va pas nous obliger à croire en lui. Dieu ne va pas nous obliger à être sauvés. Dieu qui nous aime nous laisse libres. On peut croire, on peut ne pas croire. Ah bon? On peut l'accueillir comme on peut ne pas l'accueillir. Mais ceux qui ne l'accueillent pas, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui soient damnés? Et là, on me pose la question des fois, mais je ne sais pas, là. Comment Dieu, dans sa miséricorde, va juger, hein, si on peut dire, l'humanité? Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. Je fais confiance qu'il est Dieu, puis il saura bien comment, hein, comme on peut dire, conclure, hein, l'histoire de l'humanité, si on peut dire, telle que nous la connaissons. Je ne comprends pas tout, là, vous savez, je ne comprends pas ça, là. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, un grand théologien, Urs von Balthasar, était aussi devant cette question. La justice et la miséricorde de Dieu. Le jugement de Dieu sur l'humanité, et en même temps, sa bonté. Alors, vous voyez, il y a des questions comme ça, des fois, qu'on se pose. Il y a d'autres, des fois, situations plus concrètes. Des fois, je crois en la providence de Dieu, mais des fois, je suis mis à l'épreuve. Puis là, des fois, je ne comprends pas pourquoi, Seigneur, c'est comme ça. Mais je te fais confiance. Pensez, question des vocations actuellement. Je pense que je n'ai jamais vu tant de gens prier pour les vocations, offrir leur journée pour des prêtres. On n'a pas de vocation. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Tant de gens qui s'offrent, qui offrent leur vie, qui prient pour les prêtres, qui prient pour les vocations, puis on n'en a pas plus. Comment ça se fait? Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Vous voyez? On est un peu tous comme Marie à un moment donné dans nos vies. Il arrive une situation, un malheur, une épreuve, une interrogation, on n'a pas de réponse, on ne voit pas clair. Seigneur, je te fais confiance. La foi, vous voyez, faire confiance alors même qu'on ne comprend pas tout. C'est ça qui est arrivé à Marie. Et qu'est-ce qui se passe avec Marie aussi? Ils vont retourner à Nazareth et Marie va garder dans son cœur. Elle va méditer dans son cœur. Alors, une démarche importante dans notre foi, c'est intérioriser, intégrer, approfondir. Et nous aussi, nous sommes appelés à méditer dans notre cœur, approfondir dans notre cœur, afin que la foi ne reste pas seulement quelque chose dans notre tête, mais que ça descende dans notre cœur. Hein? L'intérioriser. Et là, une grande place à la prière, au silence, qui va nous permettre d'intérioriser, de méditer avec Marie, de garder dans notre cœur hein, les dimensions de notre foi et de ce que nous vivons. Après ça, ils s'en vont à Nazareth, et là, ils sont Jésus, Marie et Joseph. Alors, c'est cette magie que j'avais sortie, que j'ai trouvée un peu de l'or naïf, c'était joli. Alors, notre foi au quotidien, c'est vrai. Hein? Notre foi, notre vie est faite de bien des choses un peu banales, des fois, au quotidien. Mais la foi, elle est dans cela, et dans notre quotidien aussi. Les travaux qu'on a à faire à la maison, y mettre notre foi en cette présence de Dieu dans notre quotidien, que Jésus est là présent, alors qu'on fait le ménage de la maison, qu'on travaille dans le jardin, qu'on va faire des courses. Dans notre quotidien, ne jamais perdre de vue que dans nos Nazareth, Dieu est là présent, et nous avons à vivre notre foi dans ce quotidien, avec ce que nous vivons de part et d'autre. Après ça, Marie était Cana. Alors, deux dimensions que je vais sortir de notre foi dans Marie à Cana. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie, comme je vous disais tantôt? Elle va intercéder. Ils n'ont plus de vin.
Ils n'ont pas de vin.
Ils n'en ont plus. Enfin, il n'y a plus de vin pour boire. Et puis là, alors, la fête risque de se gâter. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Marie va intervenir auprès de Jésus. Et elle va... Hein? Eh bien, c'est ça aussi dans notre foi. Notre foi fait en sorte que on se tourne vers Dieu et on intercède pour notre monde. Vous voyez, une foi qui n'est pas fermée sur elle-même, mais sur les besoins de notre monde. Comment Dieu va agir, je ne sais pas, mais j'y fais confiance. Je lui présente hein, les situations de notre monde d'aujourd'hui. Et on a juste à regarder les masses médias aujourd'hui, hein, tout ce qui nous est présenté dans les masses médias. On peut écouter ça et dire hey, « c'est décourageant d'écouter les nouvelles aujourd'hui ». Oui, c'est une réaction qu'on peut avoir. Mais ça peut être aussi, il y a des choses difficiles qui se vivent dans notre monde aujourd'hui. Les gens n'ont plus de joie, n'ont plus d'eau, n'ont plus de pain, ils n'ont plus de pays, ils n'ont plus de maison. C'est vrai, c'est ça que dans les journaux, à la radio, à l'Internet qu'on va nous présenter, on peut dire « c'est décourageant ». Oui, mais ça peut, on peut faire comme Marie à Cana. Intercéder pour Seigneur, ces situations, ces nouvelles dont on vient de me parler, là, je les porte dans ma prière. Je les présente, je les confie, Seigneur. Je te fais confiance. Je prie, j'intercède avec Marie, comme Marie, j'intercède pour ces personnes-là. Voyez? Et ça fait partie de notre foi, d'intercéder pour, à ce moment-là, ces situations. Et qu'est-ce qui se passe à Cana aussi? Un beau, dans notre foi, c'est important. Marie va conduire à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Un danger, des fois, vous savez, c'est d'un peu retenir à soi. C'est de retenir à soi. Et non. Notre foi doit faire en sorte que l'on conduit à Jésus. C'est pas important que vous reteniez mon nom, que vous reteniez qui je suis, puis tout ça. Ce qui est important, c'est que vous reteniez celui de qui je vous parle aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que vous approfondissiez votre relation avec Jésus. Puis moi, oubliez-moi. Vous voyez, le danger, à un moment donné, c'est de faire la vedette un peu, de se prendre un peu pour le centre. Puis dans nos vies, c'est un petit peu comme ça. Accepter, à un moment donné, d'entrer dans l'ombre. Et ce qui est important, c'est que tu aies découvert, rencontré Jésus. La parole de Jean-Baptiste, il faut que moi, je grandisse, que je diminue et que lui grandisse. Voyez, Marie, c'est ça à Cana. Elle se retire. Faites tout maintenant. Faites tout ce qu'il vous dira. Être comme ça dans notre foi, vous savez. Vous, avec vos enfants, en catéchèse, en activité pastorale, un prêtre, ce qui est important, c'est qu'il faut que Jésus grandisse. Que je conduise à Jésus. Attention à faire la vedette, à vouloir se prendre un petit peu pour le sang, puis à chercher une reconnaissance. Non. Ce qui est important, c'est pas que je sois reconnu, c'est que lui, Jésus, soit reconnu. Conduire à Jésus. Vous voyez, c'est très important. Après ça, alors, qui est ma mère, dit Jésus, à faire celui qui fait la volonté de mon Père. Voilà celui qui est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Attitude fondamentale dans la foi. La foi, c'est pas juste de dire « je crois en Dieu ». Mais si je crois en Dieu, je fais aussi ce qui plaît à Dieu. Vous voyez? Autre attitude que je veux mentionner, écouter la parole de Dieu. Qui est pour moi un frère, une sœur, une mère? Celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Notre foi doit se nourrir aussi à la parole de Dieu. Elle doit se nourrir à la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Exactement. Donc, se nourrir de la parole de Dieu. Alors, et c'est regrettable, parfois, je regarde ça, des fois, dans des retraites que je prêche au foyer. Oh là là, on ne connaît pas bien notre parole de Dieu, les Saintes Écritures. S'en nourrir. On peut lire bien des auteurs, bien des livres, mais lire la parole de Dieu, la méditer. Alors, et Marie qui était à la croix, ça achève, Marie à la croix. Alors, et qu'est-ce qui se passe à la croix? Question. À qui Jésus s'adresse-t-il d'abord quand il est en croix? À qui Jésus s'adresse-t-il? Voyant sa mère et près d'elle le disciple que Jésus aimait, Jésus dit, il s'adresse à qui d'abord? À Jean, au disciple bien-aimé, ou à la mère? Ah, vous êtes partagés, l'assemblée est partagée, comme on dirait. Il s'adresse d'abord à la mère. Femme, voici ton fils. Puis, il dit au disciple, voici ta mère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes d'abord confiés à Marie. Femme, voici ton fils. C'est très beau. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais on pourrait prendre seulement une conférence sur ce chapitre 19, les versets 25 à 27 de Saint-Jean. Très beau. Nous sommes d'abord confiés à Marie. Nous sommes d'abord les enfants, les fils et les filles de Marie. Alors, dans la foi, reconnaître que nous sommes confiés à Marie. Et qu'est-ce qui se passe? Deuxième démarche dans la foi. Qu'est-ce qui fait le disciple bien-aimé? Il va prendre Marie chez lui. Et prendre Marie chez lui, c'est pas seulement de la convivialité, à savoir que Marie va vivre sur le même toit que Saint-Jean. Il va s'occuper de la vieille Marie. Non, c'est pas ça. C'est prendre Marie chez soi, c'est se laisser former par elle. Alors, voyez? Donc, dans la foi, nous sommes appelés à prendre Marie. Et qu'est-ce qu'elle va faire, Marie? Elle va former le Christ en nous. Elle va former le Christ en nous. C'est l'œuvre de Marie. Marie a formé le Christ Jésus qui est la tête. Et Marie, si nous la prenons dans nos vies, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va former le Christ dans les membres que nous sommes. Elle qui a formé la tête va aussi former les membres du corps du Christ que nous sommes. Très beau. Il y a une parole de Marc que j'ai mise à l'entrée du foyer. Aimer Jésus comme l'aimait Marie et aimer Marie comme l'aimait Jésus. Voyez? C'est beau. Aimer Marie comme l'aimait Jésus et aimer Jésus comme l'aimait Marie. C'est beau. Alors, et enfin, je termine. Croire que nous sommes. Parce que le disciple, tantôt je vous ai posé la question, qui est-ce qui est au pied de la croix? Vous avez dit Saint-Jean. J'ai dit non, c'est pas Saint-Jean, c'est le disciple bien-aimé. Le disciple bien-aimé, c'est qui? C'est nous. Les bien-aimés de Dieu, comme dira Saint-Paul, c'est nous. Oui, il y a eu un personnage typique, là, à savoir une personne bien précise, l'apôtre Jean. Mais l'apôtre Jean est représentatif de tous les disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, ceux qui croient en Jésus, qui se mettent à la suite de Jésus, à la sequela Christi, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent Marie. Ils sont d'abord pris par Marie, puis ils prennent Marie. Et qu'est-ce qu'elle fait? elle va former le Christ en eux. Et pour nous, la croix, et là, ça va annoncer la prochaine, hein, le prochain thème que vous apporterez. La croix, pour nous, comme chrétiens, elle a une qualité bien précise. Quelle qualité qu'elle a, la croix du chrétien? Exactement. La croix glorieuse. Alors, Marie, au pied de la croix, c'est pas simplement, pouf, la mort. C'est la croix glorieuse. Voyez? La croix glorieuse. Donc, c'est la résurrection. C'est la vie qui l'emporte. Voilà. Alors, je vais laisser, voyez, c'est un petit peu la réflexion que je voulais vous partager aujourd'hui de l'Annonciation à la croix, tous les différents tableaux de la vie de Marie. Et à travers ces tableaux de Marie, où on voit la foi de Marie qui chemine, différentes caractéristiques de la foi de Marie, comment nous, on est appelé à se les approprier, à les intégrer. Je sais que ça fait un gros morceau, vous n'avez pas tout retenu. Bon, c'est pas grave de tout retenir. Le Saint-Esprit va vous aider, comme dit Jésus, hein, vous nous aider à comprendre, vous nous aider à aller plus loin. Et cet après-midi, ce sera peut-être intéressant de tout ça, là. Y a-t-il un aspect de la foi de Marie qui me rejoint en particulier dans ma propre vie, dans mon propre cheminement de foi? Ça va, j'ai-tu fini, Jean-Claude? Là, j'arrête là.
Oui, oui.
Ah.
Oui.
On peut laisser ça, ben oui.
Vous
pouvez connaître
le panneau?
Non, vous pouvez laisser. Au fond, c'est beau. C'est tout Jésus, ça.
C'est l'image de Jésus.
Ben oui, c'est ça. Tiens, moi, je vais enlever mes papiers à moi. Oui, je vais y aller. Avec Marie, par Marie, en Marie, nous t'adorons, ô Jésus, toi le premier-né de toute créature, toi le premier-né d'entre les morts.